20h02 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de la grille. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est très heureux malgré cette chaleur étouffante dont vous faites aussi peut-être les frais, chers auditeurs. Nous, on est dans un studio où la chaleur est, on va dire, décuplée par le fait qu'il n'y ait pas de clim tout simplement et que c'est un endroit fermé. Bref, on va essayer de vous fournir la plus belle émission. À mes côtés, Cédric, à ma droite. Salut Cédric, comment ça va?
Salut tout le monde. Bah écoute, comme tout le monde, hein, on cherche la fraîcheur.
C'est ça. On essaie de boire, c'est important, ouais, c'est hydraté, on le rappelle.
Au moins 2 litres hein, par jour en ce moment.
C'est très important.
C'est un peu le minimum, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que dire de plus? Bah malgré la chaleur,
il fait chaud.
Il fait chaud.
L'actu, c'est il fait chaud.
Il fait chaud. Non, on a eu quelques actus, on va dire, on s'y attendait pas.
Ouais.
Notamment local.
Ouais, local, oui, c'est vrai, oui. C'était la nouvelle du jour, on en reparlera juste après.
Voilà.
Mais c'est placé sous le signe du sport américain.
Ouais, pour donner des petits indices.
Voilà, c'est ça.
Mais par ça, non, bah écoute, niveau sport cette semaine, pour ma part, c'était surtout le match de rugby.
Ouais, ok.
On
de l'équipe de France.
Match de l'équipe de France, voilà, ouais.
Okay.
On en débattra un petit peu, mais... à peu près rassurant, mais il y a, mais je dirais.
Ok, très bien. On reparlera vite fait un peu de la liste, notamment de Fabien Galthié. Clément est également avec nous. Ça va être ta troisième émission, c'est ça?
C'est ça. Deuxième émission où je parle et
ouais.
Troisième émission que je viens dans le studio. Ouais.
Très bien. Donc, bah, encore une fois, re-bienvenue à toi.
C'est le thème du feu ce soir.
Ouais. C'est vrai, puisque tu vas avoir notamment ta première chronique.
Oui.
Et oui, ta première chronique que tu vas pouvoir diffuser, j'aimerais dire, à l'antenne. Ça va parler de quoi?
Ça va parler d'un Ironman, et plus précisément l'Ironman qui est réputé comme le plus compliqué au monde.
Ah, c'est pas Tony Stark qui m'a parlé?
Non, c'est une discipline. Enfin, c'est un triathlon remanié, on va dire.
Ouais, en plus, on est dans l'actualité, du coup, avec les monios.
C'est ça, avec les test events.
Test events, oui.
Ce week-end.
C'est vrai que, oui, c'est une course qui a l'air très intéressante, et donc tu vas nous en parler pendant à peu près 5 minutes hein, donc sur cette émission. On va dans un premier temps donc pour le sommaire parler des informations locales avec évidemment le SCO. Amandine Brossier, un Angevine hein, qui dispute actuellement les championnats du monde d'athlétisme. On n'en dira pas forcément trop sur l'athlétisme puisque donc tu prévois aussi une deuxième chronique donc dès la semaine prochaine sur les championnats du monde d'athlétisme, avec en gros un bilan
un résumé global.
C'est ça, sur les Français et puis les internationaux.
Il n'y aura pas grand chose à dire sur les Français.
Exactement, malheureusement, en tout cas quelques déceptions. Donc voilà, on essaiera quand même de donner certains résultats sur cette émission-là. Et puis on vous parlera notamment de rugby, puisque déjà il y a un match de top 14. Et oui, à Raymond Kopa. Ça se passe samedi soir, si je dis pas de bêtises. Et puis
ouais, le match délocalisé, ouais.
C'est ça, à Raymond Kopa. Et puis il y a aussi, donc on va le dire du nouveau, du côté de l'EAB et des Yankees, on n'en dit pas plus. Et après, je vous proposerai une chronique. Je vous avais déjà fait une chronique sur l'Arabie Saoudite, le soft power et ce genre de choses. Et c'est vrai que le football de demain est un thème qui m'intéresse particulièrement. Et donc, on va aborder un deuxième thème de sur l'avenir du football avec la Coupe du Monde des Clubs 2025, cette nouvelle réforme qui arrive bientôt. Et en gros, en quoi le football des clubs commence à se mondialiser de plus en plus. Et on pourra enchaîner sur voilà certaines digressions pour arriver sur un débat. Et voilà, et je pense que j'en préparerai même une troisième pour terminer un petit peu là-dessus. Sinon, au niveau des actus internationales, on aura évidemment le football, la Coupe du Monde féminine, la Ligue 1, les espoirs avec Thierry Henry qui a été nommé, je sais pas comment on dit, sélectionneur donc de cette équipe de France Espoir. Au niveau des clubs français en Europe, on rappellera que l'OM n'a pas pu rejoindre la Ligue des Champions. Mais il y avait le doublé d'Aubameyang qui avait bien
pronostic presque.
C'est ça, presque réussi. Tu avais dit donc 3-1 doublé d'Aubameyang, il y a eu 2-1 doublé d'Aubameyang, c'est quand même pas mal. On peut l'applaudir Cédric, c'est vraiment pas mal.
Ah, il y avait 1 sur 2 hein. Non, en termes de pronos, il y a déjà, ça remonte un peu le niveau, tu vois.
C'est ça, il a le bon résultat mais pas bon score et malheureusement, il y a pas la qualif surtout ouais, pour
il y a beaucoup de choses à dire, je pense.
Oui, c'est ça.
Non qualification enfin.
C'est ça et puis après le reste de l'actu, le rugby avec la liste de Fabien Galthié, l'Euro de volley féminin, l'athlétisme avec les résultats comme je le disais et également le tennis avec le duel Alcaraz-Djokovic. Bah écoutez, on va commencer sans plus tarder puisque voilà le temps presse déjà. On va parler du SCO. Au bout de 3 journées de championnat, le SCO n'a toujours pas décroché la moindre victoire pour son retour en Ligue 2. Samedi après-midi, les Angevins recevaient au stade Raymond Kopa Auxerre, autre relégué de Ligue 1. Dans un match animé, les joueurs d'Alexandre Dujeu auraient pu espérer mieux après le carton rouge reçu par Auxerre au bout de 20 minutes. Les Auxerrois qui menaient 1-0 depuis la 17e ont commencé à reculer et c'est alors que Loïs Dio est venu égaliser pour le SCO juste avant la pause. L'ancien Stéphanois inscrit par la même occasion le premier but angevin de la saison en Ligue 2. À l'heure de jeu, c'est le jeune Noah Nadj qui marque d'un magnifique retourné pour son premier but en professionnel. Et à 11 contre 10 à domicile, avec l'avantage du score, on se dit alors que le SCO est sur le point de signer sa première victoire de la saison, mais c'est sans compter sur le but de Gauthier Hein qui trompe Yaya Fofana dans un trou de souris. Score final de partout, le SCO ne comptabilise que 2 points après 3 journées avant de se déplacer à Dunkerque samedi prochain. Messieurs, 2 points sur 9 possibles, est-ce que ça commence à être inquiétant pour la saison du SCO, pour les ambitions en tout cas du SCO?
On va dire logiquement oui, c'est inquiétant quand t'es le deuxième budget de la Ligue 2. Mais en soi, sur ce match-là, ce qui est plus inquiétant, c'est que on pensait que le travers de pas contrôler le match et de se faire rattraper, ça s'était amélioré, quoi. Au vu de ce qu'on avait pu apercevoir dans l'envie tout ça. Et là, tu joues pendant 70 minutes à 11 contre 10. Tu mènes au score et là tu te fais rattraper bêtement. Apparemment, c'est vraiment un cafouillage pour ce but-là. Enfin, c'est limite si c'est offert, d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Donc, en soi, c'est rassurant parce que ça a marqué. Mais il y a le chantier de la défense qui est toujours compliqué.
Ouais.
Bon, ça, on s'y attendait quand même un peu.
Et même Yaya Fofana, en tout cas, pour avoir vu le résumé du match, il n'est pas très rassurant parce qu'il y a une sortie qui est ratée de sa part. Et puis sur le but, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais enfin, ça passe entre ses jambes alors qu'il doit l'arrêter, quoi.
Oh, et puis même déjà dans les matchs de préparation, apparemment, c'était pas si rassurant que ça. Je ne sais pas après, est-ce que faut déjà essayer de tenter un électrochoc?
Je pense pas.
Et puis de changer de gardien tout de suite, je sais pas. Je sais pas si
c'est un peu tôt, ouais.
Ça peut...
ouais.
Après, jeune. Je me dis, si les jeunes, tu vois, ça peut être bon aussi de. Parce que.
Peut-être si apporter une concurrence.
Si, si ça continue comme ça, est-ce que réellement c'est le servir? S'il a des grosses faiblesses?
Je sais pas.
Je pense que là-dessus, il y a un gros travail à faire.
Ouais, le mercato n'est pas fini.
Mmh. Ouais, mais bon, on sait que les gardiens, on en a à l'appel normalement, donc.
Puis c'est l'un des gardiens qu'on a acheté le plus cher.
Ouais.
Fana, ouais, c'est ça. Pour le Alors Havre. Que Bernardoni, on l'a déjà aussi payé cher.
C'est oui.
Ça. Donc, enfin, c'est un peu, ça fait, de toute façon, ça fait 2-3 ans, hein, que le chantier du gardien est toujours compliqué.
Ouais.
Là, c'est vrai que bon, on peut mettre ça sur le côté, c'est un jeune, il a besoin de progresser. Mais c'est le troisième match, donc on peut laisser encore le bénéfice du doute.
Ouais.
Par contre, d'ici 2-3 matchs, effectivement, là, on pourra se poser vraiment les questions de ouais. Un peu du niveau, quoi.
Et t'en penses quoi, toi, Clément ?
Bah après, on peut dire qu'on a comblé les lacunes offensives qu'on avait parce que, enfin, c'était un peu désastreux en termes d'attaque ces derniers temps au SCO, en mettant deux buts, deux beaux buts, on va dire.
Ouais.
Enfin, c'est deux beaux buts. Ça peut remettre en confiance les attaquants aussi et peut-être repartir sur une meilleure dynamique que ces deux derniers matchs.
Ouais, c'est vrai que ça part de façon compliquée hein, pour le SCO. C'est pas forcément le début de saison rêvé. Et Dunkerque, il y a peut-être moyen de choper ces trois premiers points donc oui. La semaine prochaine.
Ouais, on disait,
à voir.
On disait ça avec
Annecy, ouais.
Annecy qui était normalement prenable et au final. Ouais.
On verra ça, on suivra ça pour le SCO.
Par contre, ce qui est un petit peu hallucinant, c'est qu'on a encore vu des choses malheureuses ce week-end encore en Ligue 2.
Oui, hier
avec Bordeaux.
Avec Bordeaux, voilà. Enfin, c'est. J'ai envie de dire heureusement peut-être que ça arrive en début de saison. Que ouais. J'espère que la fédération va mieux organiser les déplacements parce que là, en fait, ça part complètement de. Pour moi, c'est une faute. De la Fédé et de la préfecture. Ce qui se passe, c'est que Bordeaux donc, se déplace à Ajaccio. Tout le monde de la semaine, il n'y a rien, c'était OK. Donc les Bordelais, il y en a qui ont profité, qui ont été directement là-bas
ouais.
Pour profiter de vacances, tout ça. Et deux ou trois jours avant le match, on dit, ben non, il n'y a pas de parc visiteur. Donc c'est bien, les places ont déjà été vendues, il y a des gens qui sont sur place. Et ce qui s'est passé, ben, c'est que les supporters bordelais ils sont allés en tribune à Ajaccienne. En soi, ils ont respecté le deal. Mm. Mais bon, bah, forcément, ils sont un petit peu manifestés avec des chants pour Bordeaux. Et puis bon, bah voilà, ça a dégénéré. Ouais. Bon, là, dans cette histoire-là, il y a une faute des deux clubs, mais il y a aussi une faute, je pense, de la préfecture et surtout de la Fédé qui doit mieux encadrer ce genre de choses. Et on prend pas une décision comme ça à la dernière minute, quoi. Enfin, même si c'est 3 jours, c'est trop tard, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est ça a été en tout cas ça a renforcé en fait ouais. ce climat assez mauvais
parce que j'ai l'impression en plus que cette année en Ligue 2 au niveau supporters il y a des dingueries tout
il y a eu des bagarres à
Saint-Etienne
enfin, mais c'était
entre supporters voilà, mais
et même Bordeaux
c'était la semaine d'avant
ouais. Bordeaux il y a eu le match contre Odez en fin d'année dernière ouais. C'est aussi un
le derby Laval-Angers ça n'a pas été non plus tout joli apparemment
Faustin qui nous rapporte ouais.
Voilà enfin puis même enfin bon quand tu entends les chants qu'il y avait voilà
ouais.
Je pense que c'est au début de saison qu'il faut taper, il faut pas attendre que ça parce que le prochain match ça va être quoi, c'est on va retrouver les mêmes problèmes qu'il y a eu en fin de saison, enfin c'est
non, c'est vrai que là tout ce qui s'est passé de mauvais en Ligue 1 ça commence à aller
en
Ligue 2 et c'est vrai qu'en Ligue 1 pour l'instant je crois pas qu'il y a eu de gros débordements.
Non.
Bon après la saison n'est pas finie donc voilà.
C'est plus sur l'arbitrage qu'il y a des débordements mais
c'est ça.
On est habitué à cela.
Exactement. Voilà, on va refermer ce volet SCO en vous parlant notamment de la nouvelle du jour. C'est celle comme quoi l'EAB, donc l'Étoile Angers Basket, aurait, je ne sais pas si c'est investir, mais en gros, c'est ça.
Mais alors, je sais pas.
On n'a pas tous les détails.
On peut parler quelque part d'un rapprochement.
Il y a alors donc en gros selon l'Étoile Angers Basket, le club et les Yankees SCO Angers s'associent et rassemble le sport américain à Angers. Voilà, c'est ce qui est dit par le club. Et donc, à partir de aujourd'hui, le club de football américain, mais aussi de flag et de cheerleading, il portera le nom donc de l'étoile Angers Yankees. Donc, ça change par rapport avant, c'était les Yankees d'Angers.
C'était ensuite, SCO Yankees. Ouais.
Et donc après, il y a eu le SCO qui s'est rajouté à ça. Et donc maintenant, le SCO est supprimé pour parler maintenant de l'étoile Angers Yankees. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver dans les prochains jours, notamment ça va se dessiner de façon assez différente, peut-être un changement de logo, on n'en sait pas plus.
Je pense que oui, parce que par exemple, exemple, je suis allé voir sur la page Facebook des Yankees.
Oui, ça a déjà changé de nom.
Ça a déjà changé de nom, il y a juste encore pour l'instant l'ancien logo.
C'est ça. Mais je pense que voilà, c'est les couleurs en tout cas pour l'instant des Yankees qui sont plus noirs
et blancs,
et alors que celles de l'UAB sont plus
en bleu, blanc, orange et blanc.
Ces deux clubs dont l'émission est assez proche, on a été partenaire de l'étoile Angers Basket, on a reçu beaucoup les Yankees. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Cédric, de ce partenariat?
Je t'avoue, quand tu m'as envoyé le truc, j'ai fait c'est Vince, enfin c'est déjà, c'est, enfin, tu te dis, mais d'où ça vient? Parce que bon, normalement, quand t'es dans une grosse entité comme l'entité du SCO, sachant que l'entité en soi SCO fonctionne bien.
Alors, il faut savoir, donc, l'entité SCO, il y en a deux différentes. Il y a celle de Chabanne avec le SCO Foot et le SCO Handball. Et il y a l'association SCO, qui regroupe donc notamment, qui regroupait le football américain, mais aussi, voilà, le volley notamment. Ouais. Le kickball, enfin voilà, c'est plein de sports. Je crois qu'il y a une douzaine de sports.
Le triathlon aussi, non?
C'est ça, voilà, triathlon, cyclisme également. Voilà, il y a une douzaine de sports qui sont regroupés d'un point de vue associatif. Et donc, vas-y, je te laisse terminer.
Donc vrai. Ouais, mais alors d'après avec ces infos-là que j'avais pas forcément, soit donc effectivement dans ce niveau-là, alors, au niveau associatif, il y a peut-être des soucis de peut-être simplement de d'appellation. Après, je sais pas s'il y avait des subventions ou des choses comme ça qui étaient apportées ou pas, ça, bon, on n'a pas forcément les infos pour l'instant, mais c'était quand même un peu étonnant, quoi.
Ouais.
Qui sortent comme ça. Après, en soi, je pense que c'est plus en termes de visibilité que ça peut amener des choses intéressantes pour les Yankees, parce que bon, voilà, déjà ne serait-ce que le cheerleading, ça peut mettre une exposition supplémentaire sur cette section-là, parce que je suppose s'il y a une entente, on peut imaginer justement que pour les matchs, généralement il y a toujours les pom-poms qui sont là.
Ouais.
À la place, là, est-ce que ce serait pas les cheerleading qui feraient le même taf?
Ouais.
Donc voilà, ça peut faire de la pub,
Et puis surtout, ça peut se rapprocher autour de la culture américaine.
C'est ça,
un
voilà.
Peu ce qui est mis en avant sur ce partenariat. Je vais revenir sur l'article notamment de nos confrères de Ouest France qui ont notamment recueilli les propos lors d'une conférence de presse de Thierry Wasso, le président de l'EAB. L'idée c'est d'élargir, je le cite, hein, l'idée c'est d'élargir le support de communication, de mutualiser certains éléments en termes de politique d'achat et d'animation ou d'organisation. Et surtout, il explique que l'EAB veut proposer une nouvelle offre sportive. Et puis au niveau du président des Yankees, hein, Florent Aymard, il dit carrément que voilà, c'est un nouveau souffle, hein, pour son club. Donc ça va être intéressant. Et puis Thierry Wasso qui ne s'arrête pas là, il souhaite un peu réinventer la structure de son club, potentiellement se rapprocher d'un troisième club, c'est ce qui est dit dans l'article, c'est de ses propres mots, et pourquoi pas chercher un partenariat avec une université américaine pour nos jeunes des deux clubs, l'idée de prendre une autre dimension. Donc pour les ambitions de l'étoile Angers Basket qui commence à avoir sous son giron un autre club de la ville d'Angers. Donc ça va commencer à devenir intéressant.
En tout cas, ouais, c'est quand même une belle annonce surprenante, mais voilà, je pense que ça va mettre encore plus en avant le football américain et toute la culture qui va autour. Ça va sûrement aussi leur ouvrir plus de portes. Je pense de sponsoring, des choses comme ça, enfin
ça va être
en tout cas pour l'instant sur le papier, ça a l'air d'être que du bonheur pour les deux clubs, quoi.
Exactement. On essaiera de les recevoir.
Oui,
soit les un de deux clubs pour.
On va essayer quand même d'enquêter un peu plus pour.
C'est ça, pour en savoir plus.
Pour en savoir plus.
C'est ça pour. Et donc peut-être dans les prochains jours un changement de logo. On vous tiendra au courant. On va enchaîner tout de suite avec l'athlétisme. Amandine Brossier, vous le savez, qui est engagée lors des championnats du monde sur trois courses différentes, son 400 mètres individuel, le 4x400 mètres mixte et le 4x400 mètres féminin. Lors du 4x400 mètres mixte, elle a terminé à la quatrième place avec l'équipe de France. À noter que c'est davantage une cinquième place puisque les Pays-Bas ont été éliminés alors qu'elles étaient bien parties pour l'emporter. Elle a été par contre dès le lendemain éliminée en série du 400 mètres, ce qui est un petit peu dommage parce qu'elle elle fait état d'une nuit compliquée forcément puisqu'elle a enchaîné et donc cette finale
et elle avait mondiale déjà fait une course le matin
c'est ça,
où ils ont battu le record de France aussi le 400.
C'est ça, c'était pour la demi-finale.
C'est ça.
Et donc voilà, elle a enchaîné deux courses plus le lendemain, voilà, son 400 mètres. Elle termine cinquième de sa série. Oui. En 52-88, pardon. Ouais. Et donc, voilà, Amandine Brossier qui est sortie dès les séries. Voilà, un petit peu décevant, puisqu'on imaginait peut-être plus en demi-finale, pourquoi pas, pour Amandine Brossier. En tout cas, rien n'est perdu, puisqu'il y a le relais 4x400 mètres féminin qui arrive le week-end prochain. Voilà, on sait que ça termine notamment ces championnats par des relais la plupart du temps.
Déjà, j'ai pas compris pourquoi il y avait un relais dès la première journée.
Parce que c'est une nouveauté.
Ouais, le 4x400 mètres mix, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle discipline.
Ouais, mais justement, t'as toutes tes sessions de relais qui sont ensemble.
Mais du coup, les 4x400 mètres hommes et femmes, tu veux pas les faire le même jour que le mixte.
Comme ça, ils ont.
Tu peux t'arranger. Enfin, c'est. On sait que souvent il y a des réserves pour faire tourner justement les équipes, tu vois. Enfin,
bah après c'est
plus
optimal quand même.
Mais pour pouvoir mettre les
meilleurs. Ouais, voilà, c'est plus optimal.
Ouais, enfin, tu vois. Après, je sais pas. C'est quand même bizarre de programmer ça dès l'ouverture. Enfin,
ouais.
Du coup, t'enchaînes, tu vois, parce que le problème se pose dès le lendemain, tu vois. C'est la question risque de se poser pour les JO dans ces cas-là. Ça veut dire qu'il faut plus de quotas. Parce que tu pourras pas mettre au JO, ce sera le même problème. Tu vas les enchaîner, tes deux courses.
Bon, on verra ça pour Amandine Brossier. Donc le relais 4x400 mètres féminin, ce sera samedi et dimanche s'il y a finale. On termine par un dernier mot de rugby. On vous l'a dit, il y a un match de top 14 qui arrive samedi du côté de Raymond Coppa. Je sais pas s'il reste encore des places. Je sais pas si vous êtes renseigné, les gars.
Ça m'étonnerait si c'est La Rochelle.
Je pense que c'est assez booké, je pense.
Après c'était La Rochelle même qui vendait les places. Donc,
Stade Rochelet qui est donc double champion d'Europe en titre, qui va affronter Lyon. Le loup, sur le stade Raymond Coppa. Voilà pour le rugby. Et puis surtout, souligner, et on reviendra ça peut-être plus tard dans l'émission, Paul Bouédan, qui est donc formé au score rugby, qui va disputer donc la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et donc voilà, c'est quand même un très beau symbole pour le rugby en juin. Et donc voilà, surtout à 15h, ne manquez pas le match entre le Stade Rochelet et Lyon.
J'ai juste un petit peu peur de la qualité du terrain pour un match de rugby.
C'est ça.
Jardiniers vont avoir du boulot.
Je pense derrière pour refaire un match de foot, ouais, ça peut être sympa. C'est la première fois qu'on doit avoir un match de rugby.
Ah, c'est vrai que c'est assez rare parce que le terrain me paraît un peu petit, les tribunes très proches du but.
Enfin, dans les stades de rugby, souvent les tribunes elles sont proches des.
Ouais, mais c'est vrai que.
Tu paries,
particulièrement.
Il va falloir installer les poteaux.
Ah oui, ça.
Les poteaux, il n'y en a jamais eu. Bizarre, ça peut être.
Ça va être intéressant à regarder.
Pas de soucis, enfin.
Et, voilà.
On espère qu'il y aura de l'ambiance.
Pourquoi pas?
Parce que, on n'en a pas parlé, mais.
C'est un événement.
J'ai pas entendu beaucoup le match du SCO samedi dernier. Pourtant, il faisait beau. Ça aurait dû pousser sur les buts. Généralement, moi où j'habite, j'entends quand il y a un but.
Ouais.
Là, j'ai rien entendu de la journée.
Sur le match du SCO ?
Ouais.
C'est de plus en plus compliqué.
C'est pour ça. Enfin.
Bah, en même temps, la semaine d'avant, si t'avais rien entendu, c'est normal parce qu'il n'y a pas eu de but.
Oui. Bon. Mais là, j'espère que ça va faire un peu de bruit. Quoi.
Le temps passe, on est assez pressé. On va passer tout de suite à la chronique de Clément. Première chronique, tu vas nous donc nous parler de, je sais pas si on peut dire d'athlé, mais en tout cas de course, de running, avec la course du Norseman.
C'est ça.
Et ben écoute, je te laisse la main. Et puis voilà.
Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une discipline qui est très peu connue, mais qui suscite un grand engouement ces dernières années. Donc je vais vous parler de l'Ironman et plus précisément du Norseman, qui est réputé comme être l'Ironman le plus compliqué au monde. Donc je vais expliquer déjà ce qu'est un triathlon, parce que l'Ironman est un dérivé du triathlon. Donc les distances olympiques dans un triathlon, elles consistent à nager 1,5 km. Ensuite, on prend le vélo et on pédale 40 km. Puis on finit par courir 10 km en course à pied. Donc ces distances, elles sont valables pour les hommes comme pour les femmes. Donc c'est les hommes et les femmes parcourent les mêmes distances. C'est l'un des seuls sports où c'est à peu près équivalent. Donc ces distances, elles peuvent varier. Enfin, il peut y avoir des sprints, des super sprints ou l'Ironman dont je vais vous parler ce soir. Donc l'Ironman, il a été créé en 1978 par deux Américains, John et Judy Collins. Ils ont décidé de créer ce triathlon très longue distance pour pimenter le triathlon qui leur semblait un peu trop pas très intéressant à regarder.
Ouais.
Donc pour l'achever, il faut parcourir 33,8 km en nageant, ensuite 180 km à vélo, puis terminer par un marathon en course à pied, donc 42,195 km. Donc les premiers championnats du monde de triathlon Ironman, donc Ironman qui signifie homme de fer, ont lieu en 1990, et cette discipline, elle va se faire connaître petit à petit partout dans le monde. Cette course, comme je le disais tout à l'heure, elle va susciter un grand engouement ces dernières années. Il y a plus de 91 000 personnes qui ont voulu y participer en 2016. Au final, il y a eu que 2300 personnes qui ont pu faire ces championnats du monde, parce que sinon il y allait avoir trop de monde. Donc ce soir, je vais pas vous parler des championnats du monde d'Ironman, mais bien du Norseman Extreme Triathlon, qui est l'Ironman réputé comme être le plus difficile au monde, même si maintenant il y a énormément d'Ironman qui sont compliqués. Celui-là, c'est vraiment le premier à repousser les limites du coureur. Donc cette course, elle se déroule en Norvège, plus précisément à Eidfjord, tous les ans au mois d'août depuis 2003. Donc seulement 250 personnes y participent chaque année, et ce sur tirage au sort. Donc le créateur de cette course, il se nomme Pal Arek Strandheim. Donc il a créé cette course dans le but de relancer la pratique de l'Ironman en Norvège. Donc la course, elle peut paraître comme les autres, parce que c'est les mêmes distances qu'un Ironman normal, même si c'est quand même compliqué. Mais là, il y a beaucoup de facteurs qui font que le Norseman, il est encore plus compliqué qu'un Ironman classique. Donc la course, elle démarre à 4h45, où il y a un ferry qui se rend au milieu d'un lac, donc d'un fjord en Norvège. Les concurrents sautent de ce ferry. À 5h, lorsque tous les concurrents ont rejoint la ligne, le départ est donné. Les coureurs commencent par à peu près une heure de nage, donc 3,8 km, dans une eau généralement entre 14 et 16 degrés, déjà
très froid.
Voilà, c'est ça. Ensuite vient le vélo, donc toujours 180 km à l'habitude, mais à ça s'ajoute 3300 mètres de dénivelé positif,
wow.
Soit à peu près trois fois l'Alpe d'Huez. Donc c'est quand même
c'est
très
quand même
conséquent.
Énorme.
Et pour terminer, il y a toujours un marathon, mais à partir du 25e kilomètre, on arrive au pied du Gostastoppen, dont le sommet se situe à 1885 mètres d'altitude. Donc à partir de ce Gostastoppen, les 160 premiers qui sont au pied de cette montée, ils ont le droit d'aller en haut du Gostastoppen, et ils doivent gravir les 17,2 kilomètres qui les séparent du sommet. Et en arrivant là-haut, ils ont le privilège de revêtir le fameux t-shirt noir qui symbolise le fait que vous soyez arrivé dans les 160 premiers au sommet. Pour ceux qui sont malheureusement arrivés après la 160e place, ils doivent finir la course sur un autre circuit et n'ont pas le privilège de monter ce fameux Gostastoppen. Et donc ils ont le droit de revêtir le le maillot blanc, mais souvent il est pas porté car c'est un peu une honte. Enfin, c'est pas vraiment une honte, mais c'est
un lot de consolation.
Voilà, c'est ça. Et donc une petite règle qui est particulière aux Norsemen, c'est que à partir du 37e kilomètre de course, les coureurs doivent être accompagnés d'une personne de leur entourage.
Okay.
Et finir avec leur accompagnant les derniers hectomètres de leur circuit respectif. Parce que tout simplement, la course, elle est tellement difficile qu'il faut qu'ils soient accompagnés dans les derniers kilomètres parce que pour pas qu'il y ait de problème avec le coureur. Donc, pour finir, je vais parler de ce qui s'est passé cette année. Donc, la course, elle a eu lieu début août. C'était le 20e anniversaire du Norseman. Et c'est sans surprise un Norvégien du nom de Jon Saveras Brevold qui s'impose chez les hommes en 9h09. Ça fait déjà 3 années de suite.
9h.
Ça fait déjà 3 années de suite qu'il gagne cette course. Et chez les femmes, c'est la Britannique Flora College qui remporte la course en 11h21. Donc là, on voit bien l'écart, pratiquement 2h, c'est quand même énorme. Donc cette année, la course, elle s'est pas terminée en haut du Gustavstoppen. Parce qu'il y a eu des orages et donc ils n'ont pas pu finir en haut du col mythique. Donc la course, elle a été déviée, mais les 160 premiers, ils ont quand même pu revêtir le t-shirt noir. Et je voulais aussi, en faisant cette chronique, dire un grand bravo à Eric Berrehé, qui est un avrier et qui a terminé cette 20e édition en 33e place, enfin garçon, et au scratch 38e. Ou non, 40e si je dis pas de bêtises, et il a fini 4e français. Donc voilà, je voulais faire une petite dédicace et encore un grand bravo à lui.
C'est vrai, un grand bravo, hein, un local qui parvient à faire cette course assez incroyable.
On sait pas s'il nous écoute.
Normalement, il écoute.
Il est bienvenu en ça, studio s'il veut venir en parler.
Exactement. Et en tout cas, bah ouais, bravo à lui et puis bravo au reste des concurrents
c'est
parce
ça,
que
oui.
Ce que tu nous as raconté, c'est assez exceptionnel, assez extrême, et ça m'a limite fatigué d'entendre.
Ouais, j'étais bien moi sur mon siège.
C'est ça.
À calculer.
Et d'ailleurs, maintenant, il y a un nouveau. Ça va être sous forme d'un nouveau schéma. Ils vont devoir faire d'autres courses extrêmes avant de pouvoir accéder à ce Norseman.
Oh là là.
Bon. Ouais, parce que considéré comme
lui. C'était pas assez dur.
Ça va être le grand chelem de la saison. Après, quelque part, ça peut se comprendre parce que. Même si c'est sur sélection, je vois pas comment tu peux tenir si t'en fais pas d'autres dans l'année. Déjà, je pense que tu dois pas en faire tant que ça, parce que entre la préparation, l'énergie que ça demande le jour J, la récupération, elle doit être impressionnante aussi derrière. Je pense que t'es pendant 2-3 jours bien à plat. Enfin, c'est impressionnant déjà quand on regarde un peu les Ironman, on va dire un peu plus classiques.
C'est quelque chose.
Je crois que c'est Laurent Jalabert qui l'avait fait et qu'il l'a remporté.
Non, il l'a pas remporté.
En tout cas, il avait fait une belle performance.
Et, à vélo, il est.
Ouais, même pour lui qui venait du milieu de vélo, ça a été quand même compliqué. Mais voilà, enfin, déjà ces Ironman là sont impressionnants et celui-là, oui, quand on voit les images, c'est vrai que c'est. T'es là, tu fais. Je suis bien dans mon siège. Par contre, le paysage est joli, hein.
Ouais.
C'est ça. J'irais bien faire le touriste pour prendre des photos, mais pas pour courir un marathon entier après beaucoup de kilomètres. Donc voilà. Bah, merci beaucoup, Clément, pour ta chronique. On va maintenant passer à une pause musicale. Le temps pour nous d'activer le ventilateur parce que il fait actuellement 45 degrés dans les studios.
Ressenti.
C'est ça. On doit transpirer autant que les coureurs du Norseman. on va s'écouter Tima et Gazo pour leur titre filtré et on se retrouve juste après ça.
J'arrive dans 10 minutes, la sportive garée, le joint il diminue. Du fric entassé, mes billets font des lunes. La drogue a passé, faut une petite part pour les mules. Grosse équipe carbo, droite rouge, mais les gants, j'finis dans le thum. Sa mère, on déboule tard gros, c'est nous les cassos qui vont dans le seum. Bah ouais, ça sent la peuf trop fort dans l'étagère. Rabat, je la prends sur l'étagère. J'suis dans des housses, c'est ouf, quand ça fait boum quand la
zone
ma
est branchée.
Ma bitch m'a roulé un pet après avoir fait l'amour. Ma folie t'embête, pète, mais le volume en bas de la tour. Calibré si ça pète, on pétarde même si tu fais le mort. Guiné un comme MH, obligé de faire le move.
J'ai pété le 3 fois filtré, c'est pas du narguilé.
Trop de bouteilles, j'ai enquillé, j'ai même plus l'heure qu'il est.
Une fois, deux fois, trois fois filtré, je vais la démaquiller.
Avec que faut pas fider, c'est pas désinspiré. Ah ouais. J'arrive à ta fête, j'ai mis du LV, j'ai mis du BSB. J'ai les trois shooters pour ceux qui voulaient me tester. Elle a vu l'argent, mais faut qu'elle twerk si elle veut rester. Et si elle sent bon, joint de je la fais empester. Parce qu'avec moi, je fais moins d'argent. Poser, c'est de la perte de temps. Avec toi, je fais moins d'argent. Poser, c'est de la perte de temps.
Ma chérie m'a roulé un pète ou avant de faire l'amour. Ça dit pas vite, on se pète ou fais-moi quitter la tour. Calibré si ça pète, on pétarde même si tu fais le mort. Quand la calache fait atchoum bébé, tout le monde fait le move. J'ai pété le 3 fois filtré, c'est pas du narguilé.
C'était Gazo et Timbal pour leur titre filtré. On est toujours dans Génération Sport, l'émission sportive de Radio G. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou bien sur internet sur www.radio-g.fr. On est de retour donc avec... pardon, c'est vrai que j'ai pas mis ton micro. Vas-y.
Je disais peut-être dans le but de préparer un triathlon ou un...
C'est ça.
Ou un Ironman, quitter en courant.
Pas tout de suite. Donc voilà, toujours avec Clément et Cédric dans Génération Sport. Avant de parler un peu de toute l'activité sportive internationale, je vous ai préparé donc une petite chronique après avoir réalisé justement un petit texte sur le développement du sport dans le Moyen-Orient il y a quelques semaines, en évoquant notamment le mercato fou hein, des Saoudiens. Je vais passer à un deuxième thème hein, qui pourrait lui aussi définir le visage du football de demain. En effet, vous ne l'avez peut-être pas vu passer dans les médias, mais la FIFA a décidé en mars dernier de réformer sa Coupe du Monde des clubs. Celle-ci se déroulera désormais tous les 4 ans à partir de 2025, puisqu'elle remplacera dans le calendrier foot la regrettée Coupe des Confédérations. Et comme pour cette dernière, elle se tiendra dans le pays organisateur du mondial suivant, c'est-à-dire pour sa première édition donc aux États-Unis. Mais le changement le plus important reste le nombre de participants à cette compétition. On en aura 32 au lieu de seulement 8 actuellement. Auparavant, ou plutôt à l'heure actuelle, la Coupe du Monde des clubs regroupe les vainqueurs de Coupe continentale des 6 confédérations de la FIFA, l'UEFA, l'AFC, l'OFC, la CONMEBOL, la CONCACAF et j'ai oublié le sigle pour l'Asie, mais ça va me revenir. L'AFC c'est l'Asie et la CAF c'est pour l'Afrique.
La CAF oui, c'est l'Afrique.
Donc les 6 vainqueurs des coupes continentales qui s'appellent généralement les Ligues des Champions. Aujourd'hui on a donc ces six équipes là plus un club du pays organisateur et cette année ce sera d'ailleurs le club d'Al Ittihad qui se rajoutera à la fête puisque l'Arabie Saoudite organise la compétition en décembre prochain. La compétition actuelle possède un format assez particulier étant donné que les clubs européens et sud-américains n'arrivent qu'en demi-finale mais elle est également peu suivie hein, des observateurs du football, un peu comme la Super Coupe d'Europe ou le Trophée des Champions. C'est un trophée assez mineur dans le paysage footballistique mondial. Mais pour l'édition suivante, en 2025, il risque d'y avoir un peu plus d'intérêt, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, le nombre de participants a été étendu, de sorte à ce qu'on puisse concerner beaucoup plus d'équipes et de spectateurs. Au niveau de la répartition des continents, l'Europe sort sans surprise grande gagnante avec 12 participants devant l'Amérique du Sud qui aura deux fois moins de représentants. Pour l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Nord et Centrale, ce sera 4 chacun et un seul ticket pour l'Océanie. Et enfin, il y aura une toute dernière qualification pour le pays hôte américain. Trop de équipes vont donc s'affronter dans un tournoi inédit à disputer en juin et juillet 2025. À noter que pour l'Europe, le système de qualification se base à la fois sur les vainqueurs de Ligue des Champions depuis 2021, ainsi que les 8 meilleures équipes non vainqueurs entre 2021 et 2024. Voilà un peu pour le système de qualification chez les Européens. J'ai parlé donc de la réforme, maintenant parlons des points positifs et des points négatifs. Le gros point noir de cette nouvelle compétition, c'est évidemment l'accumulation des matchs. Après une saison éprouvante, les joueurs des grands clubs devront voyager à l'autre bout du monde pour disputer au minimum 3 nouveaux matchs, et ce après un été 2024 où certains auront disputé l'Euro puis les Jeux Olympiques, et avant l'été 2026 dans lequel certains disputeront un mondial à 48 équipes. Les étés de l'avenir du football mondial ne seront pas donc de tout repos. En outre, certains pourraient aussi évoquer la nouvelle incohérence écologique avec ces déplacements toujours plus conséquents en avion avec des équipes venant du monde entier. Maintenant qu'on a dit ça, on peut analyser cette réforme sous l'angle de la mondialisation du football par le biais cette fois des clubs. On le sait, plusieurs championnats extérieurs à l'Europe tentent ou ont tenté de se développer et d'attirer des joueurs du vieux continent. Et cette compétition permettra de voir le réel niveau des équipes de ces championnats-là. L'Inter Miami de Lionel Messi, le Al-Hilal de Neymar, le Boca Junior d'Edinson Cavani ou encore, pourquoi pas, le Al Rayyan de Sofia Boufal pourront peut-être se frotter aux meilleures écuries européennes à l'occasion de cette compétition. Les Européens pourront donc être concurrencés à la victoire finale et tout cela pourrait sur le long terme redéfinir la suprématie du football de club du football de club européen, pardon. On n'en est pas encore là évidemment, mais en tout cas, je suis prêt à parier que cette Coupe du monde des clubs 2025 fera beaucoup plus de bruit que l'on ne le pense. Enfin, j'aimerais terminer cette chronique par un parallèle entre cette Coupe du monde des clubs étendue à 32 équipes et la volonté des instances de potentiellement faire s'affronter des clubs de continents différents. Et si elles ne sont pas encore prêtes à se concrétiser dans un futur proche, certaines rumeurs font état de la volonté du championnat saoudien d'offrir un ticket à ces clubs pour participer à la Ligue des Champions. Selon les médias italiens, une demande aurait été formulée à l'UEFA. Et puis, de l'autre côté de l'Atlantique, le bruit court que la CONMEBOL aurait invité l'Inter Miami de l'Argentin Lionel Messi à participer à la Copa Libertadores, une rumeur infondée et pour le moment impossible à réaliser. En revanche, une nouvelle compétition est à l'étude pour se faire confronter dans un tournoi à 4, 2 équipes de la CONCACAF, donc l'Amérique du Nord et Centrale, et 2 équipes de la CONMEBOL. Ça concerne donc l'Amérique du Sud. En tant que vainqueur de la Leagues Cup, l'Inter Miami donc en ferait pour l'instant partie. Certains dirigeants des plus grandes instances du foot ont donc pour projet dans les années à venir de faire sauter les barrières continentales, et ce sera donc une affaire à suivre. Et sur le dernier point, messieurs, c'est vrai que on a entendu toutes ces rumeurs qui concernaient donc potentielle participation d'un club saoudien à la Champions League, étant donné notamment que la Champions League s'étend à 36 équipes, et puis surtout voilà, potentiellement ça parlait, même si ça va pas se faire, d'une équipe américaine en Copa Libertadores. Qu'est-ce que vous pensez de ces ponts un peu qui peuvent se faire sur le football mondial?
Après, il faut vraiment prendre les deux à part, parce que le coup de la Copa Libertadores, clairement c'est juste parce que c'est Messi. Ça aurait été un autre joueur, on n'aurait pas sorti le tapis rouge. Clairement, c'est depuis un moment, il y a Saint Messi, sauve-nous de tout, ramène-nous des titres, et ramène-nous surtout de l'argent qui est là. Après, pour le championnat de l'Arabie Saoudite, j'ai envie de dire, quelque part, ils ont raison de tenter le coup, puisqu'on a déjà autorisé des pays qui sont hors Union Européenne.
La Turquie,
voilà. À participer à la Champions League. Donc j'ai envie de dire, sur le papier, ils sont dans leur droit.
Notamment aussi pour les pays qui ont pu rejoindre l'UEFA en n'étant pas forcément dans l'Europe.
C'est ça.
On a aussi le Kazakhstan le Kazakhstan, et on pourrait concerner aussi Israël.
La Russie, on est vraiment dans la limite de l'Europe.
Bah, souvent, on définit l'Europe par la frontière de l'Oural. La ligne l'Oural. Donc, la Russie, c'est assez asiatique et européen. Mmh. Un peu comme la Turquie, qui est aussi comme très proche de l'Europe. Mais pour moi, Israël, notamment, et le Kazakhstan, c'est quand même très éloigné. On est plus sur quelque chose d'asiatique.
Sur la technologie qui soit dans...
Qu'est-ce que je dis, c'est plus vraiment européen, c'est ça que je veux dire.
Ils seraient plus dans la zone
asiatique, on les
mettre dedans.
Mais c'est vrai que voilà. Donc comme tu le disais, c'est vrai que c'est, et puis surtout on a aussi le cas de l'Australie qui est comptabilisé dans l'Asie et qui ne joue plus du coup du côté océanien. Donc voilà, c'est aussi de particularité. Alors c'est plausible.
La Nouvelle-Zélande est considérée comme
C'est ça, dans l'Océanie, elle n'a pas encore quitté l'Océanie.
Ouais, mais ils font une ligue que entre Nouvelle-Zélande.
Nouvelle-Zélande, et après, il y a plein d'autres micro-États, et puis après, il y a aussi des pays pas forcément indépendants, comme Tahiti, qui participent à ces compétitions-là. Pour un club saoudien, c'est vrai que ça paraît plausible. Après, sur cette décision en telle, ça perd un peu son charme.
Pour
une Coupe d'Europe, un club saoudien.
Tu me dis, techniquement, on ne devrait plus avoir les clubs anglais en Champions League si on va là, puisqu'ils font plus partie de l'Union européenne.
C'est différent, l'Union européenne et l'Europe. C'est quand même.
Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas trop sur quoi ils se basent.
Ils se basent sur le continent européen, pas forcément sur l'Union européenne.
Donc, on pourrait quand même, en ce cas-là.
Puis, on ne peut pas enlever les Anglais,
Oui, non, c'est sûr.
Ah, si, comme ça, on aurait plus de place.
Peut-être plus gagner.
T'aurais de plus en plus, il y aurait plus de place. Parce que le problème, c'est qu'il y a plein de pays qui ont genre qu'une seule ou deux places, ou qui doivent passer par les barrages. Alors, pour certains, ça se comprend par rapport au niveau du championnat. Oui. Mais je crois que c'est, par exemple, les Pays-Bas, ils sont sous-représentés comparé à d'autres clubs en Europe. Si tu rajoutes l'Arabie Saoudite, c'est potentiellement une place en moins pour eux.
Oui, c'est ça.
Il y a beaucoup de clubs qui vont dans ce sens-là, qui disent vous êtes bien gentils, mais nous les places, on a déjà pas beaucoup, donc vous offrez.
Même s'il y a donc 36 équipes à partir de 2023.
C'est ça, oui. Il faut trouver. Je pense que la solution de la Coupe du Monde, elle est bien justement pour ça. Puis voilà quoi.
Ouais.
Le fait de rajouter trop de clubs, on voit clairement que c'est derrière business, it's business, donc.
On verra ça évidemment pour ce football mondial, football des clubs qui se mondialisent de plus en plus. On va rester sur le football avec les actualités, la victoire de l'Espagne 1-0 lors de la finale de la Coupe du Monde féminine face à l'Angleterre. On n'aura pas forcément le temps de revenir sur toute la polémique qu'il y a eu autour de cette finale. En tout cas voilà, les Espagnols qui décrochent leur premier titre mondial. Au niveau de la Ligue 1, les résultats du week-end, on a eu vendredi, le match nul entre Metz et Marseille, de partout. À 19h, le samedi, c'est Lyon qui a été défait 4-1 sur sa pelouse. Un partout entre Toulouse et le Paris Saint-Germain. Ensuite, le dimanche, victoire de Lille 2-0 contre Nantes. Victoire de Brest 2-1 contre Le Havre. Match nul entre Lorient et Nice, un partout. Reims et Clermont. Reims bat Clermont 2-0. Monaco qui est très bien dans ce début de saison et qui est d'ailleurs leader a gagné 3-0 contre Strasbourg. Et sur le choc de cette deuxième journée, c'est Lens et Rennes qui se sont séparés sur un score nul de 1 partout. À noter donc, on en a parlé rapidement, on n'aura pas forcément le temps de revenir sur la rencontre, mais voilà, l'OM qui ne s'est pas qualifiés pour la Champions League, ils sont sortis donc au troisième tour préliminaire contre le club grec du Panathinaikos. Ce n'est pas fini quand même pour les clubs français en Europe sur ces barrages, puisque Lille va jouer le club croate de Rijeka, ou Rijeka comme vous voulez, sur les barrages de la Conference League. Ce sera à suivre dès jeudi. Et puis dans l'autre actualité du football, ça a été officialisé donc hier, Thierry Henry, l'ancien champion du monde, a été nommé sélectionneur des espoirs. Et à noter qu'un ancien Angevin, Gérald Baticle, va être notamment adjoint dans le staff de Thierry Henry. Rapidement, puisque on a encore d'autres actualités à décrypter, vous en pensez quoi de ce choix
surprenant.
Surprenant pour toi?
Surprenant, ouais, quand même.
Clément,
même si il a fait quand même du bon boulot en soi, mais je sais pas. De toute façon, déjà, moi, la nomination d'Henri, c'est pour moi une nomination bling-bling paravent JO. Comme ça, si on a des méga stars, on met un entraîneur qui est capable de contrôler. Mais
ouais,
sur le jeu et sur ce qu'il peut apporter réellement, j'ai un peu peur, quoi.
Clément,
moi, j'ai hâte de voir. Enfin, j'ai envie qu'il me surprenne un petit peu.
Ouais, je partage un peu ton avis, parce que c'est vrai que il a été un peu décevant sur le carrière de coach, mais c'est vrai que sélectionneur, c'est un tout autre level. Et puis je me dis surtout, ça va être très positif pour nos jeunes d'avoir Thierry Henry qui les conseille.
Il a de l'expérience.
Je pense au niveau des attaquants. Quand t'es attaquant, qu'on peut citer la génération de Barcola, des Wahi, des Cherki, etc., Kalimundo. Ces gars-là, quand ils vont recevoir des conseils de Thierry Henry, derrière, ça va leur servir pour leur carrière,
rien,
que ce soit en club ou chez Léa. Donc, ça peut être intéressant. Et puis surtout, je pense que pour les JO, au niveau de l'équipe que devrait avoir Thierry Henry, je pense que ça devrait le faire. Mais bon, à voir quand même si c'est un bon sélectionneur. On suivra ça dans les semaines à venir. On va maintenant parler un petit peu de rugby avec Fabien Galthié qui a dévoilé donc c'était hier sa liste pour les 33 joueurs qui disputeront la Coupe du Monde. Alors il n'y a pas forcément eu de surprise. On retrouve donc notamment Anthony Jelonche, Paul Boudéan, on l'a dit, Langevin et Louis Biel Biarret, dans ceux qui faisaient en tout cas le plus de débats, notamment dans ceux qui ne sont pas retenus, on retrouve Brice Dulin, voilà, entre autres. Mais en tout cas, voilà, on rappelle l'absence de Romain Ntamack, qui ne pourra pas disputer ce mondial. Une grosse déception, évidemment. Messieurs qui vous suivez un peu le rugby, bon voilà, pas forcément de surprise. On en pense quoi quand même de ce groupe? Est-ce qu'il peut aller chercher le titre, tout simplement?
J'ai envie de dire rendez-vous dimanche.
Rendez-vous dimanche contre l'Australie. Dernier match test.
Dernier match test. On aura, je pense, quasiment le 15 de départ contre la Nouvelle-Zélande.
Et
ce qu'on a pu voir sur le dernier match là, contre les Fidji, on a bien dominé, mais bon, j'ai eu l'impression que les Fidji, c'est un peu réducteur, mais j'ai l'impression qu'ils étaient plus en mode touriste. Là, j'ai pas senti de grosse opposition, ouais, surtout dans la première mi-temps. À la deuxième mi-temps, ils sont revenus un peu plus forts, un peu plus solides. Du coup, on s'est retrouvé un peu en difficulté. Et, je sais pas si c'était par passivité de notre part ou si réellement ça poussait fort.
Souvent, on a un coup de fatigue. Hein,
mais c'était normalement un match quand même test. En tout cas, pour un jeu qui est censé être un peu plus rigoureux, qui aurait dû être un peu plus proche des All Blacks, mais ça m'a pas plus convaincu ça. Après, bon, on a fait le taf, hein, on perd pas.
Avec une équipe bis, enfin avec l'équipe des remplaçants, moi je trouve que
c'est ça. Après,
c'est
voilà,
une copie correcte.
Sur ce point-là, oui, c'est correct, mais tu vois, ça pose quand même sur l'étendue du tournoi.
On va voir.
On verra ça, évidemment, ce sera à suivre donc dès dimanche, ce dernier match test entre la France et l'Australie, et puis le premier match de la Coupe du Monde, je crois que c'est le 8 septembre. 9 septembre, 8 ou 9. Ok, très bien. 8 septembre, France-Nouvelle-Zélande au Stade de France, ce match d'ouverture de rêve pour ce Mondial 2023. On va enchaîner maintenant avec un petit mot de volley féminin, puisque en ce moment c'est l'Euro, et l'équipe de France a plutôt bien débuté cet Euro avec 4 victoires et une défaite en 5 matchs. L'équipe de France est actuellement deuxième de sa poule, hein, sur 6. Voilà, elles ont perdu aujourd'hui par contre leur tout dernier match contre les Pays-Bas 3-7 à 1, et on devrait les retrouver en huitième de finale à partir de ce week-end. Au niveau de l'athlétisme, comme on l'a déjà dit, Clément nous partagera une petite chronique la semaine prochaine sur ce bilan des championnats du monde de Budapest. Rapidement vous dire que le 100 mètres hommes et femmes ont découlé de deux victoires américaines avec Noah Lyles et Shakari Richardson. Et puis en 110 mètres haies, hier on a eu droit à une belle finale avec deux Français, William Bellossian et Sacha Zoya, malheureusement, qui ont terminé respectivement 8e et 6e. Et c'est finalement l'Américain Grant Holloway qui l'a emporté. Clément, tu vas nous parler de ce championnat du monde de Budapest. Donc la semaine prochaine, un gros bilan sur cette semaine de compétition. Et puis on termine par le tennis avec ce duel Alcaraz-Djokovic qui nous tient en haleine entre la jeunesse, la fougue de la jeunesse et l'expérience. Donc cette semaine, c'était le tournoi de Masters 1000 de Cincinnati. Une semaine après Toronto, c'est ça
Toronto-Ouest.
Et donc Djokovic qui a remporté ce tournoi en finale devant Alcaraz, un match assez fou, interminable, 5-7, 7-6, 7-6 pour le Serbe. À noter également que niveau français, ça a été plutôt pas mal. On a eu un bon fils qui revient très fort et qui a passé les deux premiers tours. Des résultats très très intéressants. Il a battu notamment Cameron Norrie ou encore Alexandre Demidor avant de tomber contre le futur vainqueur Novak Djokovic. Et puis Adrien Manarino qui s'est qualifié pour les quarts de finale et qui est tombé face à l'Allemand Alexander Zverev.
Ça promet pour l'US Open.
Ouais, justement pour l'US Open, c'est vrai que là on commence à vraiment avoir un vrai duel entre Alcaraz et Djokovic après Roland Garros, après Wimbledon. Est-ce qu'on aura cette troisième finale de suite en Grand Chelem? Ça dépendra du tirage au sort.
Normalement, avec le tirage au sort, tu peux avoir la finale.
Oui, c'est ça. Puisque on ne sait pas encore.
Si t'as les positions de.
Ah, le numéro 1, le numéro 2, ils sont pas ensemble, c'est ça
que il me semble qu'ils sont pas dans le tableau. C'est comme à Roland-Garros, c'est t'as les, genre, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais peut-être les 10 premiers, du classement ATP qui sont, classés.
Séparés,
tout ça. Ouais,
okay, d'accord. Et ben oui, peut-être qu'on pourra avoir une troisième finale de Grand Chelem de suite, serbo-espagnol. Vous penchez pour qui? C'est vrai que, sur les, donc si on rajoute celle-là, pour l'instant ça penche du côté de Djokovic parce qu'il y a eu cette demi-finale à Roland Garros.
Ouais, mais juste avant il gagne Toronto.
Juste avant. Attends.
Non, j'allais dire Tsitsipas.
Alcaraz. Alcaraz. Oui, mais pas devant Djokovic.
Non. Mais
si jamais les deux.
En termes de résultats, oui.
Et du coup, voilà, est-ce que pour vous il y a un favori qui se dégage? Parce que c'est vrai qu'Alcaraz a été très fort. Il a eu une balle de match qu'il a perdu.
Bah pour moi, Alcaraz.
Ouais, pourquoi Alcaraz?
Il est vainqueur en titre à l'US Open, donc
pourquoi pas?
Je pense qu'il est, enfin c'est un peu, tu sais, une partie de ping-pong entre les deux au final.
On a toujours un préféré.
Et puis surtout, c'est du très beau tennis qui propose.
C'est ça, parce que en limite, on peut enlever la victoire de à Roland Garros de Djoko, qui est en soi, bon voilà, c'est sur blessure, donc. On sait pas quel scénario il y aurait eu, mais on s'enlève pas tout ce qu'il y avait avant. Voilà, c'était déjà serré. On a vu en finale de Wimbledon, c'était magnifique. Là, ils ont refait encore un remake. Enfin,
c'était un gros match.
Vrai, ouais.
On a vu un petit peu, c'était magnifique. Donc, on suivra ça. L'US Open qui démarre d'ailleurs la semaine prochaine.
Ouais.
La semaine prochaine, et donc évidemment, ça va encore garnir toute cette actualité sportive qui est assez passionnante.
Il va falloir du café. Il va falloir du café entre le rugby qui va arriver.
Il va falloir suivre tout et le basket. Et attends, le basket. Voilà. J'allais y venir. La Coupe du Monde qui démarre ce week-end, si je dis pas de bêtises, avec l'équipe
Faustin.
Faustin qui en parlera peut-être la semaine prochaine. Je crois qu'il est de retour la semaine prochaine. Oui. C'est ça. Vous retrouvez la belle voix de Faustin. Donc la semaine prochaine pour nous parler de basket, l'émission touche à sa fin. Messieurs, est-ce que vous voulez dire un dernier mot? Non, c'est bon, on va laisser l'antenne.
Il y a le disque de... Ah bah non, c'est peut-être fini.
C'est toujours en cours.
Ah oui.
Cédric, tu suis pour nous.
Ça
donne là, elle est actuellement 6 ou 7.
C'est pas mal.
Pour sûrement sa dernière.
Et en 800, il y avait un Français qui courait tout à l'heure.
Ouais, les trois sont qualifiés pour la demi-finale. Donc voilà.
Peut-être une chance de médaille.
Peut-être, on va pas parler trop vite, mais effectivement, on l'espère. On va vous quitter avec le générique et puis surtout avec la suite des programmes sur Radio G. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Génération Sport et on vous souhaite une bonne soirée.